Bonjour Monsieur Onillon, merci de bien vouloir nous accueillir chez vous. Nous avons eu la chance de découvrir vos photographies du Mexique de l'année 1963 et l'idée nous est venue de vous poser quelques questions sur votre voyage. D'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Écoutez, j'ai fait des études supérieures à l'université de Rennes. J'ai commencé une thèse à Rennes et j'ai suivi le patron de mon patron de thèse qui était le professeur Hagenmüller, qui a été nommé à Bordeaux. Et une année après mon arrivée à Bordeaux, il m'a envoyé à Berkeley pour me spécialiser en thermodynamique. Je suis parti aux États-Unis avec une bourse Fulbright, ce qui m'a permis, à l'époque, le bateau ne coûtait pas plus cher que l'avion, c'était le début des Boeing 707 en 1963, donc j'ai traversé l'Atlantique sur un beau paquebot de la Transat et je suis revenu sur le France un an plus tard. À l'Université de Californie, je faisais de la thermodynamique et le patron de mon labo, c'était le professeur Brouwer, qui n'était personne d'autre que le responsable des études à haute température du projet Manhattan. Manhattan, c'était la première bombe atomique. Alors c'était une année très intéressante. J'habitais à la Maison internationale, où il y avait un tiers d'Américains et deux tiers d'étrangers, pour ne pas que ce soit un ghetto pour étrangers. Il y avait une petite bande, évidemment, de Français. Et j'avais un ami qui était tintinophile et qui rêvait d'Amérique du Sud. Et à la fin de son année à Berkeley, il a fait un grand voyage dans les Andes. Quant à moi, j'étais très marqué par les westerns. J'avais adoré, par exemple, Veracruz de Robert Aldrich avec Burt Lancaster et Gary Cooper. Et puis j'avais vu, évidemment, le film d'Eisenstein, Que Viva Mexico. Alors, comme j'avais envie de voir le Mexique, j'y suis allé à mon retour.
Et avez-vous préparé votre voyage avec un ouvrage particulier ?
Oui, j'ai préparé le voyage de cette manière. J'avais trouvé un livre de l'écrivain belge Tsersevens, c'est dur à prononcer, qui s'appelait « Mexique à payer à trois étages ». Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à choisir mon itinéraire, parce que le Mexique, c'est très grand. Et j'ai opté pour le sud de Mexico, jusqu'à la frontière et au Guatemala, parce que c'est là qu'il y avait le plus de choses au point de vue monumental, au point de vue humain, etc., la plus forte densité par rapport au reste du Mexique. Et oui, alors, Tsersevens avait développé une idée intéressante dans son livre, c'était Mexique, pays à trois étages. Alors, au point de vue géographique, il distinguait entre les plaines, l'altiplano et les montagnes, et puis pour les populations, les Indiens, les Métis et les Espagnols. Et toute sa présentation était faite sur ce thème-là. Alors pour les climats aussi, il trouvait trois étages de climat, enfin tout était bâti sur ce thème. Et alors j'avais lu aussi un ouvrage de Jacques Soustelle, bon, qui était plutôt connu comme homme politique, mais qui était un très grand ethnologue, et qui s'appelait « Mexique terre indienne ».
Et alors par quels moyens vous êtes-vous rendu au Mexique ?
Comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à San Francisco en bateau jusqu'à New York et en avion de New York à San Francisco. Et de San Francisco, j'ai pris l'avion jusqu'à Mexico. Et tout le reste de mon parcours a été fait en bus, à l'exception d'une partie qui était Guatemala, Ciudad, la capitale du Guatemala, Mérida, que j'ai fait en avion. Parce que là, par la route, ça aurait été épouvantable. C'était la forêt vierge ou des détours pas possibles. Après, j'ai remonté de Mérida jusqu'à Mexico en suivant toute la côte du golfe du Mexique.
Avec votre appareil photo ?
Deux appareils photo. J'avais un 24-36 classique dans lequel j'avais de la pellicule couleur qui avait un inconvénient, c'est que quand on photographiait les gens, ils vous voyaient. En revanche, j'avais un appareil deux objectifs, comme une boîte carrée avec un format 6-6. On faisait la visée dessus, mais on pouvait, en tournant l'appareil, donner l'impression aux gens qu'on photographiait Pierre, alors qu'en fait, on photographiait Paul. Et donc, Paul ne se méfiait pas, et ça m'a permis d'avoir des tas de photos où les gens étaient très naturels et pas embêtés par mes intrusions.
Et vous étiez déjà passionné de photographie avant ce voyage ?
Ah oui, j'ai toujours aimé faire de la photographie. Oui, les premiers sous que j'ai eus, c'était pour acheter ce petit appareil Kodak qui s'appelait Retinet, qui était pas mal du tout, qui n'avait pas un piqué, évidemment, ça n'était pas un Leica ou un Hasselblad, mais ça m'a permis quand même de faire beaucoup de photos.
Avec un thème de prédilection ?
Non. Ah ben, au Mexique, oui, un peu. C'était les gens, plus que les paysages. Autrement, dans la vie privée, c'était la famille, c'était les amis, c'était les balades. Hein. C'était pas... Mais quelquefois, j'ai fait des photos, je vous en montrerai, là, j'en ai une ou deux qui traînent, que j'avais faites au Glénan, qui était un peu artistique.
Et oui, parce que vos photos ont une qualité esthétique incontestable. Et vous auriez aimé peut-être avoir une carrière de photographe ?
Pas vraiment. Mais quand, c'est ce que j'ai photographié dans le Chiapas, les photos noir et blanc, c'est tellement extraordinaire qu'il suffit de photographier pour que ce soit bien. Et alors, je vais vous dire une chose un peu scandaleuse, c'est qu'au fond, Eisenstein, dans Qui vive à Mexico, il ne s'est pas cassé la tête plus que moi. Il a photographié ce qu'il voyait, et ce qu'il voyait était extraordinaire. Donc je pense que n'importe qui, à commencer par moi, pouvait faire des photos tout à fait intéressantes dans ce contexte-là.
Alors par contre, on a retenu des beaux portraits de femmes, d'enfants, et qui nous ont personnellement beaucoup touchés. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ces portraits-là en particulier ?
Oui, j'ai été impressionné, si vous voulez, par... une certaine résignation des femmes. Alors, je ne donne pas dans le féminisme, hein, je vous précise, mais les Indiens, alors ça c'est ce que dit Tsersevas dans son livre, sont des gens très taciturnes. Et donc ça, l'étage indien, c'est quelque chose au Mexique qui est tout à fait calme, qui n'est pas bruyant, et à l'opposé, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas les castagnettes. Mais il y a, comme héritage espagnol, il y a les mariachis. Là, c'est brillant, c'est festif. Les Indiens, c'est terne. Ils ont des musiques qui sont un peu simplettes, surtout pour nous, en tout cas. Bon. Et alors, ce qui m'a impressionné, c'était dans les marchés ou dans les fêtes, la séparation entre les hommes et les femmes. Les hommes s'intéressent à leurs affaires, ils vont au marché, ils vendent des choses, ils achètent des trucs. Les femmes, pas beaucoup, et les femmes attendent. Et il y a des beuveries rituelles. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose de religieux ou à une habitude, mais par exemple, un soir, en me promenant avec une amie américaine, dans les rues de Cristobal de Las Casas, on est tombé près d'une école, il y avait un préau. Et sous ce préau, il y avait des corps allongés, habillés en blanc, comme dans les films d'Eisenstein, bien rangés. Alors, ce n'était pas des gens qui étaient morts, c'était des gens qui étaient ivres et qu'on avait amenés tranquillement à se dégriser sous le préau. Mais c'était de la routine. Et pendant ce temps-là, les femmes sont dehors, sous leur poncho, enfin sous leur huipil, enfin avec un, elles se couvrent un petit peu, et puis elles attendent le lendemain matin que le mari soit dégrisé et retourne dans leur campagne. Et alors j'ai vu souvent des femmes, il y a quelques photos comme ça, dont on sent qu'elles sont un peu dans l'abandon, dans le désarroi, avec leur enfant plus ou moins grand. Il y en a d'autres qui ont l'air plus joyeuses. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Mais il y a aussi des choses qui sont plus gaies. Il y a cette petite fille que j'ai photographiée en mouvement qui vendait des petits cacahuètes, des petits bonbons, je ne sais pas quoi, autour du temple de Mitla. Et ça, c'est plutôt gai. J'ai fait des photos aussi de jeunes filles assez coquettes qui voient que j'ai photographié et qui prennent un petit peu la pose, qui sont très contentes. Donc tout n'est pas... Tout n'est pas tout gris, tout terne. Je crois qu'on m'a posé la question, est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux ? Ben, je ne suis pas capable de le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si maintenant ils sont plus ou moins heureux, maintenant que le modernisme, entre guillemets, est passé par là.
Oui, ce sont des descriptions que vous donnez qui sont très très précises, hein, que l'on retrouve bien dans vos photos.
Oui.
Vous avez un œil qui est quand même très très pointu sur
oui,
certaines choses, hein, je crois. Mmh. Si, ça transparaît bien dans vos photos. Et je crois que vous avez eu l'occasion de rencontrer des Mayas.
Non, pas vraiment. J'ai rencontré les Tchamoulas dans leur village, presque leur tribu, dans leur rite, mais je n'ai pas rencontré de Mayas, sauf que les habitants du Yucatan sont des Mayas. Mais je les ai vus en ville, c'était des Mayas urbanisés, mais les femmes avaient quand même toujours la robe traditionnelle qui est très très simple. Il n'y a pas de photos dans ce qu'on présente ici, dans noir et blanc, mais j'ai des photos couleurs qui les représentent. Donc elles étaient habillées encore toujours avec cette robe traditionnelle.
Alors vous avez visité forcément des sites précolombiens, des musées aussi?
J'ai visité le musée de Mexico, l'ancien, en 1963, qui était un petit peu foutraque, enfin, mais très intéressant. Surtout, il y avait le calendrier aztèque qui trônait. Et puis, j'ai visité le nouveau musée de Mexico, qui est magnifique, qui est colossal, enfin, qui est très, très grand, où il y a une foule de choses. Mais je ne me suis pas tardé, parce qu'il aurait fallu un mois. Et puis, je n'étais pas vraiment spécialiste. Tout au plus, si j'avais voulu étudier un point particulier de telle ou telle culture, je me serais attardé dans la salle correspondante. Mais je ne l'ai pas fait, je suis passé un petit peu à vol d'oiseau, hein, je dirais.
Et à propos des musées, vous avez un souvenir d'écoliers ou d'étudiants?
Oui, oui, de lycéens, enfin de collégiens. J'avais une excellente professeure de français quand j'étais en première, qui bien entendu nous faisait des cours d'histoire littéraire en nous disant « l'histoire littéraire est un mal nécessaire ». Alors c'est tout à fait ce que je pense des musées que je visite, mais en me disant que je ne peux pas tout voir. Et souvent dans les musées, je suis entraîné par des amis intégristes qui tiennent absolument à voir toutes les salles du musée, tous les musées d'abord de l'endroit qu'ils visitent, et toutes les salles des musées. Je ne suis pas sûr qu'à la fin, ils aient retenu beaucoup de choses. Je pense qu'une bonne manière de ne rien comprendre aux civilisations mexicaines ou à la civilisation grecque, c'est de visiter, entre guillemets, le musée de Mexico ou le musée d'Athènes en une journée, et là, on est sûr qu'on n'aura rien compris du tout, ou rien assimilé. Je me rappelle avoir visiter une extraordinaire exposition en 2001 à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle, sur les plus beaux diamants du monde. Au début, j'ai vu des diamants, et puis à la fin, je ne voyais plus que des verroteries.
Êtes-vous retourné au Mexique depuis?
Oui, j'y suis retourné, je crois que c'est en 2004, 40 ans après, à un an près. J'ai trouvé des choses complètement différentes, et je dirais sous forme de boutade, qu'il y a beaucoup d'endroits que j'ai revus qui ne valaient pas le déplacement à travers l'Atlantique. Évidemment, les pyramides sont toujours là, mais elles ont été mises, comme beaucoup de monuments dans le monde, sous cellophane. Alors on y accède à travers un centre de documentation très bien fait, où on passe des vidéos, on vous montre des objets sous verre, etc. Puis c'est tellement bien fait que pour beaucoup de gens, au fond, le passage sur le site lui-même n'est qu'une formalité qui permet de faire des selfies qui vont attester au retour qu'on y est bien allé.
Que pensez-vous du tourisme qui s'est démocratisé aujourd'hui?
On ne peut pas être contre. Quoique, depuis 50 ans, j'ai passé toutes mes vacances d'été à Belle-Île-en-Mer. Et tous les ans, on voyait arriver des gens qui étaient mu par la curiosité, qui voulait voir comment c'était une île par rapport au continent, qui souvent pensait d'ailleurs que dans une île, les lois de la République ne s'appliquaient pas, donc ils faisaient n'importe quoi sur les routes, etc. Ça, c'est pas gênant. Et puis, il y a eu la chanson de Woolsey, « Belle-Île en mer, Marie Galante ». Et à peu près en même temps, le président Mitterrand a découvert Belle-Île. Il a même dit que c'était tellement bien que s'il avait connu ça plus tôt, il ne serait pas allé à Latché, il se serait installé à Belle-Île. Alors, d'un seul coup, on a vu surgir des tas de gens qui n'avaient pas été mus par la curiosité, mais qui venaient à Belle-Île, comme dans les années 50, on allait à Saint-Tropez parce qu'il y avait Brigitte Bardot. Et donc, Belle-Île était devenue un must pour des gens qui venaient là, pas pour Belle-Île, mais pour dire qu'ils y étaient allés. Alors, on assiste un petit peu à ça. Il y a peut-être une cinquantaine d'endroits dans le monde à voir absolument. Et les intégristes, là, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos des musées, ont leur liste, ils cochent chaque année tel et tel site. Ah ben, cette année, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et si j'ai vu pas mal de choses, je ne suis pas allé au Mexique, je suis allé dans d'autres endroits, mais si on me disait « tu as vu le Taj Mahal », ben je dirais « non, mais comment tu n'as pas vu le Taj Mahal, mais c'est pas possible ?» Ben, c'est à quoi je répondrais « je n'ai jamais rêvé du Taj Mahal et je n'irai pas pour cette raison-là, parce que je vais là où les choses ont piqué ma curiosité, ont suscité une envie de découverte, sinon ben, je n'y vais pas forcément. »
Alors justement, depuis ce très beau voyage qui a maintenant 60 ans déjà, avez-vous fait d'autres découvertes aussi exaltantes ?
Pas vraiment. Comme je ne connaissais pas l'Asie, parce que l'Asie ne m'attirait pas, je n'ai pas voulu mourir idiot, j'ai fait un voyage organisé en Thaïlande. J'ai vu des Bouddhas, des temples, mais je n'ai pas accroché. Donc c'était pas une expérience exaltante. Je suis allé plusieurs fois au Brésil en échange scientifique, donc j'ai vécu dans des familles de collègues brésiliens. J'ai visité des sites intéressants. Une secte assez étrange, un peu du genre de celle qui sévissait dans le Midi, où il y avait un certain Bourdin qui avait fait des choses excentriques avec des statues, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais non, je n'ai pas eu de choc aussi grand que celui que j'ai eu au Mexique. Et puis j'avais 25 ans aussi, donc j'étais peut-être un peu moins blasé que maintenant.
Nous vous remercions très chaleureusement, Monsieur Onillon, pour cet entretien et votre accueil.
Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi.